France Culture, il est 8h. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Olivia, bonjour à tous.
À la une du journal.
Alors quel bilan pour l'Euro 2016 de football, malgré la défaite française hier 0-1 face au Portugal. On fera le point avec Bruno Cadenne à la fin de ce journal.
Le Sud-Soudan, pays âgé de 5 ans seulement, connaît des affrontements qui laissent présager une deuxième guerre civile. On compte 272 morts depuis jeudi, dont un casque bleu. Les États-Unis réclament de l'aide aux pays voisins.
Le Japon, tout près d'amender sa constitution pacifique, une militarisation mal vue de ses voisins, mais permise par la victoire électorale de la coalition menée par le Premier ministre Shinzo Abe ce dimanche lors des élections sénatoriales.
L'État français au secours du premier employeur néo-calédonien, la SLN, société Le Nickel, face à la baisse des cours, 200 millions d'euros devraient être prêtés à la société pour éviter sa faillite et celle de l'économie calédonienne.
Et puis les opposants aux futurs parcs éoliens en mer commencent à donner de la voix en France. Saccage des paysages et perte d'emplois locaux, les arguments ne manquent pas. Reportage à venir. Des milliers d'habitants en fuite à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Le spectre de la guerre civile menace après des affrontements qui durent depuis jeudi entre partisans de l'actuel président Salva Kiir et de l'ancien chef rebelle et actuel vice-président Riek Machar. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a sollicité l'aide des pays de la région, notamment via des casques bleus supplémentaires pour mettre fin au combat. Un casque bleu chinois a déjà été tué. Le département d'État américain demande à son personnel non essentiel de quitter l'ambassade. Les précisions sur place de notre correspondante Patricia Huon.
La situation est calme à Djouba depuis hier soir. Les fortes pluies dans la soirée semblent avoir mis un terme momentanément au conflit. Mais chacun ici redoute le lever du jour et la possibilité de nouveaux affrontements dans la capitale sud-soudanaise où le climat reste extrêmement tendu. Hier matin, des combats ont eu lieu à l'ouest de la ville, à proximité du camp de l'ancien chef rebelle Riek Machar, là où il réside avec une bonne partie du millier de soldats qu'il a ramené avec lui à Djouba. Un porte-parole de l'opposition affirme qu'il s'agit d'une attaque sur le camp des ex-rebelles qui aurait été repoussée. Le cycle de violence est enclenché, des combats éclatent dans différents quartiers de la ville et se poursuivent tout au long de la journée avec des tirs d'artillerie et des hélicoptères qui survolent Djouba. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant, mais il pourrait y avoir des centaines de victimes selon plusieurs sources. Par ailleurs, des milliers de civils se sont réfugiés sur les bases des Nations Unies et l'escalade de ces derniers jours laisse craindre un nouveau bain de sang au Soudan du Sud.
Patricia Huon, le Sud-Soudan qui n'a que 5 ans d'existence, la précédente guerre civile avait déplacé des millions de personnes. Un triomphe électoral, la coalition du Premier ministre conservateur japonais Shinzo Abe a remporté l'équivalent des élections sénatoriales pour le Japon, le renouvellement pour moitié des sièges de la Chambre haute du Parlement, ce qui lui permet d'obtenir une super majorité des 2/3 et donc la voix pour engager la procédure de révision de la constitution japonaise, une constitution pacifique donc qui le sera un peu moins. À Tokyo, les précisions de Frédéric Charles.
Le Premier ministre Shinzo Abe va sans doute tenter de mettre fin à ce qui fait l'originalité du Japon depuis 1947, sa constitution pacifique. C'est sa grande obsession, celle aussi d'une droite nationaliste qui entend en finir avec une constitution rédigée dans un Japon vaincu par les Américains. Shinzo Abe cherche à convaincre l'opinion que le Japon sera redevenu un pays souverain à part entière le jour où il aura révisé la constitution imposée par l'occupant américain pour devenir, dit-il, un pays normal. La majorité des Japonais restent attachés à leur constitution par laquelle le Japon renonce à la guerre et sont fiers de leur statut de pays anormal. Réaliste, Shinzo Abe le sait, il a d'ailleurs fait campagne sur le redressement économique. Il reste au Premier ministre 2 années de mandat. C'est trop court pour réviser l'article 9 de la Constitution, le renoncement à la guerre. Mais il cherchera à ramener ce renoncement à une simple bonne intention. La Chine, qui n'oublie pas l'impérialisme japonais, réagit déjà. Elle voit dans le triomphe électoral de Shinzo Abe un facteur d'instabilité dans la région.
L'Indonésie annonce des exécutions prochaines et sur sa liste des étrangers. Déclaration ce matin du procureur général indonésien qui n'a pas précisé leur nationalité ni les raisons de leur condamnation. 14 personnes ont été exécutées l'année dernière en Indonésie. La plupart des étrangers reconnus coupables de trafic de drogue. Le français Serge Atlaoui a lui obtenu un sursis l'année dernière en raison du tollé international suscité par l'exécution de plusieurs autres trafiquants. Ils sont censés bénéficier d'une pension confortable qui les met à l'abri des tentations, les anciens présidents de la Commission européenne. Ça n'a pourtant pas dissuadé José Manuel Barroso de devenir le nouveau président non exécutif et conseiller de la banque d'affaires Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est la banque des subprimes, celle aussi qui a couvert la dette grecque avant de spéculer contre. Un transfert très décrié mais justifié par l'intéressé comme pouvant aider la banque à limiter les effets du Brexit. Le Brexit, il en sera question lors de l'Eurogroupe à Bruxelles aujourd'hui et demain. Les ministres des Finances se réunissent dans une atmosphère qui promet d'être fébrile, avec au menu les budgets de l'Espagne et du Portugal en situation de dérapage budgétaire et dont les ministres devront dire si oui ou non ils enclenchent une procédure de sanction. Mais les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne seront aussi abordées. Et là, tout se complique, Jean-Marc Chardon.
Aux yeux des Européens d'abord, le Brexit fait figure d'une équation économique à plusieurs inconnues. Aucun État ne peut prétendre avoir le début d'une solution, au point que chacun des protagonistes en est réduit à attendre l'initiative d'un pays tiers. Sauf que les marchés financiers n'ont pas attendu, qu'ils sont fébriles, que les banques ont souffert, notamment les italiennes, elles qui étaient déjà les plus fragiles, faute d'avoir purgé leurs comptes après la crise financière. Inquiétude sur les banques, qui ne sont pas à l'abri d'un nouveau choc, incertitude sur l'avenir de la politique monétaire. L'une des conséquences du Brexit a été d'accélérer la baisse des taux de marché, ce qui risque de gêner le programme de rachat de titres de la Banque Centrale Européenne. Autre sujet d'inquiétude, le comportement de l'euro. Personne n'anticipait qu'il puisse se réapprécier en cas de Brexit, au risque de renforcer les effets déflationnistes. Cela, ce n'est pas de bonne augure, au moment où des signes d'un ralentissement économique se profilent à l'horizon 2017 en zone euro. Ralentissement qu'une sortie effective du Royaume-Uni pourrait amplifier. Et si ralentissement il y a, les États membres, qui rencontreront plus de difficultés pour boucler leur budget, auront beau jeu de plaider à Bruxelles l'indulgence pour déficit excessif. Dès lors, les moyens des États de la zone euro pour se protéger des effets du Brexit seront forcément présents dans les échanges de l'Eurogroupe à partir d'aujourd'hui.
8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Sauvegarder le potentiel économique de la Nouvelle-Calédonie, Anne-Laure, face à la baisse des cours du nickel, effet de la baisse de la croissance chinoise, l'État français a promis une aide directe au premier employeur néo-calédonien.
En l'occurrence, la SLN, la société Le Nickel, au bord de la faillite. Et c'est aujourd'hui que le conseil d'administration doit se prononcer sur ce prêt d'État, 200 millions d'euros au total, promis par Manuel Valls. Au-delà de cette seule société, en effet, c'est toute l'économie locale qui est menacée. Stéphane Robert.
Finalement, l'État français a maintenu son offre de prêter 200 millions d'euros à la SLN, la société Le Nickel, qui produit 50% du nickel néo-calédonien. Ce prêt, c'est Manuel Valls qui l'a proposé quand il s'est rendu sur place fin avril. La SLN a enregistré 260 millions d'euros de pertes en 2015 et elle menaçait de faire faillite dans le courant de l'été, d'où ce plan de sauvetage in extremis qui doit permettre d'attendre des jours meilleurs. Pourtant, fin juin, les indépendantistes, actionnaires de la SLN à hauteur d'un tiers, ont refusé le montage juridique du prêt au motif qu'il fallait céder une action de la société à l'État français. Et oui, car en Nouvelle-Calédonie, économie et politique sont intimement liées. Et comme en 2018, la Nouvelle-Calédonie pourrait bien voter son indépendance à l'occasion d'un référendum prévu par les accords de Matignon, c'est aussi une bataille politique qui se joue en coulisses sur fond de crise économique. En attendant, il ne faut pas insulter l'avenir et maintenir à flot la production de nickel. Car le nickel, c'est le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie. Il fait vivre un quart de la population active et représente 20% du PIB de l'archipel. Hasard du calendrier, le pari de l'État français semble se réaliser sous de bons auspices car depuis quelques jours, le cours du nickel est brusquement reparti à la hausse sur les marchés financiers. Marchés financiers qui ont anticipé un probable ralentissement de la production de nickel aux Philippines, le premier producteur mondial.
Stéphane Robert, 20 000 personnes sur le site de Notre-Dame-des-Landes ce week-end pour s'opposer au projet, malgré l'issue de la consultation locale, un chiffre donné par les associations. Les opposants au nouvel aéroport appellent à une nouvelle mobilisation sur la ZAD les 8 et 9 octobre prochains. Dans la série Grand Projet, refusé par une partie de la population, la contestation s'élève contre l'éolien en mer. Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, pourtant ce type d'énergie a pour objectif de beaucoup prospérer. Trois premiers projets proposés à la demande de l'État ont été validés par les préfectures à Saint-Nazaire, à Fécamp, en Seine-Maritime et à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. Portés par EDF Énergie Nouvelle, ces parcs éoliens visent à remplacer progressivement la production d'électricité nucléaire, mais ils ne font pas l'unanimité. Plusieurs associations vont déposer des recours pour s'opposer à leur installation. Camille Marigot.
En Normandie, sur le site de Courseul, au large des côtes du débarquement, c'est la plage historique d'Aromanche que veulent protéger les opposants au parc éolien en mer. René Texier est président de Belle Normandie Environnement, l'une des associations qui dépose le recours contre le projet.
Ce sont les plages de débarquement. Il y a quand même de nombreux soldats, qu'ils soient britanniques, américains, canadiens et même français, qui sont morts et qui sont noyés sur les plages. Je trouve que planter des éoliennes au milieu d'un cimetière marin, on trouve ça extrêmement grave. Mettre des éoliennes à 10 km des plages, est évident que ça va quand même gâcher l'horizon. Le problème aussi de tout l'impact sur la faune sous-marine, et là il y aura des conséquences très importantes.
Il n'y a pas que le patrimoine des côtes qui inquiète les opposants. Pour Catherine Boutin, coordinatrice du réseau d'associations Pulse pour un littoral sans éoliennes, c'est toute l'économie locale qui va souffrir de ce projet.
Ces usines qui occupent le littoral vont tuer la pêche locale. On saccage les paysages, on détruit les emplois locaux, on détruit les emplois du tourisme. On va augmenter artificiellement le prix de l'électricité, tout ça pour du gadget et pour faire la fortune des sociétés étrangères et des lobbies éoliens.
Les détracteurs du projet critiquent enfin l'incertitude liée à cette source d'énergie qui dépend du vent, mais surtout son coût. Un seul parc coûtera à lui seul près de 2 milliards d'euros.
La télévision en ligne, on connaissait déjà, mais une interface qui permettrait de regarder en ligne, en replay et de constituer sa propre base d'enregistrement, c'est nouveau. C'est le pari que s'est lancé une start-up française du nom de Molotov, avec le soutien de plus de 80 chaînes de télévision françaises, une offre adaptée aux nouveaux usages numériques qui repose, comme souvent, sur des adaptations de la législation. Les explications de Catherine Petit.
Proposer la télévision telle qu'elle se consomme désormais, voilà la promesse de cette nouvelle plateforme de distribution. Il faut dire que si les plus jeunes ont déserté le poste de télévision classique, ils regardent massivement de la vidéo sur le net. Molotov permettra d'accéder gratuitement aux 26 chaînes de la TNT et à certaines offres payantes, et cela sur tous les écrans, c'est-à-dire du téléphone à la tablette en passant par la télévision connectée. Mais la nouveauté, c'est la possibilité d'enregistrer et de constituer sa propre vidéothèque grâce à un magnétoscope personnel en ligne. Derrière cette offre, il y a Pierre Lescure et Jean-David Blanc, les fondateurs de Canal+ et d'Allociné, ainsi que Jean-Marc Denoual, un ancien de TF1. Il y a surtout une bataille juridique. La start-up Wizgo le sait bien, elle avait été condamnée à fermer un service équivalent il y a quelques années. En cause, l'exception de copie privée, c'est-à-dire le droit d'enregistrer chez soi sur des supports physiques, hier une cassette, aujourd'hui un disque dur. Le tribunal avait alors estimé qu'il ne pouvait être étendu au stockage en ligne. Or, c'est ce que vient d'autoriser la loi création à travers ce que certains parlementaires ont désigné comme un opportun amendement Molotov. Télé, radio et plateformes devront néanmoins signer des conventions pour définir les fonctionnalités de ces services de stockage, mais la start-up ne semble pas décidée à attendre ces accords pour lancer aujourd'hui son service, quitte à provoquer des frictions.
Catherine Pétillon, un euro de football qui se termine mal pour les Français, mais un euro 2016 qui s'est dans l'ensemble bien déroulé. Alors certes, on eût aimé voir gagner la France hier soir au Stade de France contre le Portugal, d'autant que les Bleus avaient dans les pieds ce qu'il fallait pour l'emporter, mais c'est le jeu, c'est le Portugal qui est devenu champion d'Europe 2016. Hier, 1-0 lors de la deuxième prolongation. Bonjour Bruno Cadenne.
Bonjour Anne-Laure.
Bon, on peut se consoler quand même en tirant un bilan de cet Euro 2016. En France, tout s'est finalement bien passé.
Oui, débuté dans la crainte sécuritaire, l'Euro s'est en fait parfaitement déroulé, si l'on accepte bien sûr le résultat d'hier. Certes, il y a eu le deuxième jour les graves incidents de Marseille avec les attaques de hooligans russes, mais le reste du temps, à part quelques interpellations, l'Euro a été une réussite pour la sécurité, y compris dans les fan zones, pourtant très fréquentées. L'Euro à 24 équipes a également permis de découvrir des supporters de petites nations du foot qui ont beaucoup fait pour la bonne ambiance dans les stades et autour. Dans ce palmarès, citons les Boys in Green irlandais, les Gallois, les Albanais, les Hongrois ou bien sûr les Islandais pour leur désormais célèbre Huh. Mais la palme est peut-être pour les Nord-Irlandais qui sont parvenus à faire d'une chanson entêtante à la gloire de Will Grigg, le tube de l'Euro, Will Grigg's on Fire a été dans toutes les têtes, alors que ce joueur de 3e division anglaise n'a pas joué une seule minute durant l'Euro. Et puis, il y aura eu l'enthousiasme du pays pour son équipe nationale. La France s'est réconciliée avec son équipe et peut-être avec elle-même durant un mois. La ferveur autour des Bleus a été totale pendant toute l'épreuve. Il n'aura manqué que... Enfin, vous savez quoi.
On sait bien. Merci beaucoup Bruno Cadenne, c'est chez Volarme. On termine avec la météo de ce lundi et des orages qui s'annoncent ce matin. D'abord en Auvergne et Bourgogne, avant de monter vers l'Est, jusqu'à la Franche-Comté et l'Alsace. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Et de pluie sur le Sud-Ouest et les Pyrénées. Temps chaud et lumineux sur la Méditerranée. Température à l'avenant jusqu'à 37 degrés cet après-midi en Corse. Ailleurs, comptez de 13 à 19 degrés le matin, 19 à 26 l'après-midi.
C'était le journal d'Anne Lorchois.